lettres coréennes. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Lettres coréennes. Cette semaine, nous vous proposons de lire ensemble la nouvelle de Kim Hee-jung, Sa chambre.
Tous les jours, à 17h20 précise, la lumière s'allume dans sa chambre. Contre le ciel bleu qui s'assombrit, elle se transforme instantanément en un salon splendide. Je regarde aujourd'hui encore cette pièce illuminée. L'homme vit dans un studio en duplex de 50 mètres carrés, pas différent du mien. S'il y a une chose qui distingue sa chambre de la mienne, c'est que les rideaux finissent à 50 ou 60 cm au-dessus du rebord des fenêtres. On dirait qu'ils ont été utilisés quelque part. Ils sont courts, comme une jupe mal ajustée, car les rideaux de taille normale sont trop petits pour couvrir les immenses fenêtres du duplex. Je peux donc voir depuis ma chambre une grande partie de l'intérieur de l'espace, jusqu'au buste de l'homme assis au bureau. Il est de nouveau assis à son bureau. Son profil immobile semble être celui d'un moine bouddhiste en méditation. J'ai l'impression d'être à l'entrée d'un temple calme et isolé. Lorsque je fixe son visage concentré, sa tête recouverte de cheveux argentés ressemblant au chant de la lie d'automne et appuyée sur son torse penché en avant à 30 degrés.
Sa chambre de Kim Hee-jung a été publiée en 2010. La narratrice héroïne de cette nouvelle est une traductrice de manga japonais qui observe tous les jours un homme vivant dans un studio en face du sien.
La première fois que j'ai vu le dos d'un homme, c'était pendant l'hiver de ma troisième année au collège.
Notre protagoniste avait fui la maison parentale à cet hiver-là. Elle avait volé une paire de lunettes de soleil dans un grand magasin et n'a pas tardé à être surprise par un agent de sécurité qui a ensuite convoqué son père. Ce dernier a demandé pardon, disant que sa fille était encore trop jeune et manquait donc de maturité.
J'ai vu le dos de mon père. Il était si courbé que son manteau traînait presque par terre. Son dos tendu semblait solitaire comme une vieille tombe laissée à l'abandon depuis longtemps.
Le père de la narratrice a disparu du jour au lendemain. Il avait été promu directeur de département de sa banque 3 ans auparavant et il ne lui restait plus qu'un an avant sa retraite. Lorsque notre héroïne a appris la nouvelle, sa lettre de démission avait déjà été acceptée et son indemnité de départ avait été investie dans un petit magasin en face d'une station de métro. Il a laissé une lettre destinée à sa femme à côté du titre de propriété de la boutique et de son livret de compte d'épargne.
Je ne crois pas pouvoir te décrire ce que je ressens maintenant, mais comme tu le sais bien, j'ai travaillé plus dur que quiconque toute ma vie. Et en ce moment, tout me semble vide et dénué de sens. Je ne peux plus supporter tout cela. La seule pensée que j'avais chaque jour était que je ne pouvais plus rester ici. Je ne sais même pas ce qui m'attend, mais je veux y aller.
Le père de l'héroïne s'était occupé de la famille à la place de son grand-père et n'a jamais vu sa responsabilité. Il était si fidèle à son travail qu'il refusait une bonne offre d'emploi d'une autre banque, si frugal qu'il ne changeait jamais les meubles ou les appareils électroménagers sans une bonne raison. Bref, c'était un homme très sérieux. Alors, qu'est-ce qui l'a poussé à laisser sa famille derrière lui? Voici Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l'Université nationale de Séoul, qui répond à cette question.
Cette nouvelle défend le point de vue d'un homme, bien qu'elle soit écrite par un écrivain femme. Le père dans ce récit était dévoué à sa famille. C'était un père de famille modèle qui a fait des sacrifices plutôt que de régner sur elle. Or, il a disparu brusquement. C'est une histoire qui décrit la psychologie d'un homme qui n'a vécu que pour sa famille pendant 30 ans, sans un instant de repos, avant de trouver le courage de quitter son foyer.
Deux mois après sa disparition, la famille a finalement eu de ses nouvelles.
Il était monté à bord d'un navire hauturier partant du port de Busan 3 jours après avoir quitté la maison. Plus étonnant encore, il n'était pas un passager clandestin, mais un marin titulaire d'un permis qui naviguait sur un porte-conteneur en direction de l'Europe.
La mère de la narratrice s'est sentie extrêmement trahie par la nouvelle. « Notre héroïne mange et fume en même temps que l'homme qui vit en face de chez elle. Une fois, elle va jusqu'à fouiller dans sa boîte aux lettres, mais ne trouve rien. Puis un jour...
Ce jour-là, je regardais distraitement le champ vide après la récolte d'automne en contrebas. Je détournais la tête quand mon regard a rencontré le sien. Non. Nos regards ne se sont pas croisés car je n'étais pas assez près pour voir ses yeux, mais sa posture correspondait clairement à la mienne, à tel point que j'étais certaine qu'il me regardait. Je n'ai pas évité son regard, je l'ai regardé droit dans les yeux. Nous nous fixions sans faire le moindre mouvement. Ses épaules étaient modérément tendues par la curiosité pour une inconnue et ses yeux brillaient si fort que je pouvais les sentir de là où je me trouvais. Au moment où la chanson passée à la radio touchait à sa fin, il a détourné la tête. Il s'est précipité au bureau comme s'il avait oublié de finir ce qu'il faisait. Je ne supportais pas qu'il retourne à sa place si froidement. Alors je suis allé fouiller une nouvelle fois dans sa boîte aux lettres. Dedans se trouvait une facture de son opérateur de télécommunication, une facture de gaz de 2550 won et un prospectus publicitaire d'une boîte de nuit voisine. Il utilisait à peu près la même quantité de gaz pour la cuisine que moi et il était abonné au service internet de la société de télécommunication A. J'ai pris l'escalier au lieu de l'ascenseur. En montant jusqu'au 8e étage, j'ai senti le nom de Park Yupom écrit clairement sur la facture de télécommunication flotter quelque part en moi.
Peu de choses ont changé après le départ du père. Le magasin qu'il avait acheté avec son indemnité de retraite laissait à la famille un revenu stable et les études supérieures de notre narratrice étaient payées par l'assurance qu'il avait souscrite. Mais le cœur blessé de sa femme ne se soulageait pas aussi facilement. Cela a pris 5 ans à la mère de notre héroïne, souffrant de ménopause et de dépression, de retrouver un peu de paix intérieure. Elle a fini par déménager à Chang'an, une ville dans le centre du pays où vivait sa sœur.
Pendant que je ne le regardais pas, l'homme a mis un manteau comme pour sortir. Même si je ne le surveillais pas 24 heures sur 24, autant que je me souvienne, je ne l'avais jamais vu quitter son studio. J'éteins toutes les lumières de ma chambre et garde mes yeux sur la rue en contrebas. L'homme aux cheveux argentés, dans un blouson noir, se dirige vers mon immeuble. Contrairement à quand il était assis à son bureau, il a l'air étrangement petit et léger, presque en état d'apesanteur. Sans un instant d'hésitation, j'enfile rapidement ma doudoune et une casquette, puis sors de chez moi. Je l'aperçois à peine entrant dans un bar nouvellement ouvert il y a quelques jours. Vu de près, les épaules de l'homme en train de boire une tasse de saké chaud semblent plus étroites et plus affaissées. Je passe nonchalamment devant le bar et entre dans le restaurant de sushi de l'autre côté de la rue et commande un bol de riz aux œufs de poisson pour un dîner tardif. La silhouette floue de son dos se reflète sur la fenêtre. Les œufs de poisson dans le bol en terre cuite éclatent dans ma bouche comme des feux d'artifice. Devant mes yeux, un banc de poissons volants s'envole tel des oiseaux avec leurs nageoires déployées comme des ailes des deux côtés d'un navire traversant l'océan Indien.
C'est le cousin du père qui a apporté les dernières nouvelles de l'homme qui était revenu de la mer. Il avait croisé à l'agence immobilière qu'un ami dirigeait. Le père était là pour louer un appartement.
Il a dit qu'il voulait voir le plus étrange des mondes, un endroit où il n'avait jamais été auparavant et ne sera jamais. Il pensait que la mer était un tel endroit. Il a également dit qu'il voulait voir depuis le vaste océan la terre où il avait rampé comme un ver toute sa vie.
Le père de la narratrice avait donc obtenu le certificat de matelot et parcouru les océans Pacifique, Indien et Atlantique.
Après avoir erré pendant 5 ans, il ne se souvenait même plus de ce qu'il avait étouffé autant. La petite masse terrestre vue du large paraissait si dénuée de sens et la vie semblait absurde. Il a dit qu'il se sentirait bien, même s'il devait passer ses jours restants comme ça.
Pourquoi donc le maire de l'héroïne n'était pas retourné à sa famille ou une fois revenu de la mer ? D'après la critique littéraire Chan So-yeon, dès qu'une personne devient membre d'une famille ou d'une communauté, elle n'est plus appelée par son nom, mais par la position qu'elle occupe dans ce groupe. Lorsque cela dure longtemps, elle est susceptible de perdre son identité ou sa personnalité unique. Le père de la narratrice en a fait l'expérience et ce sentiment de perte l'a conduit à s'aventurer en mer. Ce personnage s'est découvert à l'océan sans limite, à l'origine de toutes les créatures, c'est pourquoi il n'a pas pu retourner dans sa famille.
En tenue légère, il raccommode ses vêtements usés. Chaque point est fait avec soin et précaution. Il est complètement immergé dans la couture, comme si ses yeux et ses vêtements ne faisaient qu'un. Je me perds en le regardant. Bientôt, sa couture me paraît pas différente de lui qui lit toute la journée sans bouger ou qui boit tout seul. Il est toujours seul, mais semble tout aussi épanoui qu'un homme dans l'entrainte la plus serrée avec sa maîtresse. Il est sans compagnie, mais il n'a pas l'air esselé. J'allume toutes les lumières de mon duplex, puis remonte complètement les stores avant de m'asseoir sur les marches menant à l'étage avec un verre de vin à la main. Ma chambre entièrement éclairée et moi, assise sur les escaliers, seront clairement visibles de l'autre côté de la rue. Après avoir terminé la couture, il écrit maintenant quelque chose à son bureau. Je n'ai aucune idée s'il écrit son journal intime ou un livre de dépenses. Je l'espionne depuis près d'un an, j'ai fouillé dans sa boîte aux lettres, mais je n'ai pas réussi à savoir ce qu'il faisait devant son bureau toute la journée. C'est là qu'il habite, il vit seul. Il m'a dit de ne pas venir, donc je n'y suis pas allé, même le jour de l'emménagement.
Le jour où la narratrice a vu le cousin de son père, elle a loué un studio de l'immeuble d'en face. Puis elle a commencé à observer l'homme qui avait disparu de sa vie.
Peut-être qu'il lit les classiques de la littérature ancienne et qu'il avait étudié avec son grand-père pendant son enfance. Ou peut-être qu'il étudie les courants marins du détroit de Bering et de la mer d'Arabie, ou encore les neiges éternelles et les glaciers de la péninsule du Kamchatka. Tout comme je ne peux pas deviner les livres qu'il lit, je ne peux pas comprendre les couleurs et la profondeur des océans Indien et Pacifique sur lesquels il a navigué, ni comment une soudaine rafale de vent pourra rediriger les courants qui coulent profondément sous la mer pour nous secouer au-dessus de l'eau.
Notre narratrice observe son père pendant près d'un an sans rien dire à sa mère. Que fais-tu ?
Maman me demande toujours d'une voix désespérée, comme si elle était insupportablement curieuse de ce que je fais. Rien de spécial, je bois un verre.
Toute seule ?
Elle sait parfaitement que je suis seule, mais c'est une de ses habitudes de me redemander ainsi.
J'ai aussi bu un verre de vin. Je n'arrive pas à dormir.
Ma main tenant le verre tremble doucement à sa voix imbibée de vin. « Tu t'endormirais si tu prenais un autre verre avec moi. Allez, porte-toi un toast !» J'essaye d'avoir l'air aussi normal que possible.
« D'accord. »
L'humidité semble s'être un peu dissipée de sa voix. « À la nôtre !» Je lève mon verre vers sa chambre plongée dans l'obscurité.
« Tu sais, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton père. »
Elle lâche cette phrase comme si elle ne pouvait plus se retenir.
« Cela fait exactement 10 ans. Je me demande où il est maintenant. » J'espère qu'il va bien.
La voix de maman s'enfonce profondément dans le verre de vin. J'acquiesce doucement de la tête, les yeux toujours fixés sur sa chambre sombre.
Voici la critique littéraire Chan So-yeon qui nous explique le message de l'auteur.
Le personnage Il, dans cette histoire, qui est décrit au début comme un homme inconnu, s'avère être le père de la narratrice. Sa découverte nous fait repenser à notre propre vie. La famille est un groupe soudé, mais elle est essentiellement composée d'individus distincts. La mère et la narratrice avaient du mal à accepter le départ du père pendant longtemps. Cela signifie qu'elle ne le connaissait pas en tant qu'individu. C'est pourquoi l'héroïne garde ses distances et se contente de l'observer pour le comprendre enfin. Le personnage du père, dans cette histoire, nous fait nous demander qui nous sommes vraiment en tant qu'individu, pas en tant que membre d'une famille ou d'une communauté.
Ainsi se termine cette édition de Lettres coréennes consacrée à la nouvelle de Kim Hee-jung, Sa chambre. C'était Yun Yen-hee au micro avec Maxime Lalo au doublage et Woo Ryan à la réalisation. Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle coréenne la semaine prochaine. Au revoir.